fête, elle dure 7 jours. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 7 jours de spécifiques? C'est qu'on n'a pas de Hametz chez soi, Baliré, Balimatsé, on n'a pas le droit de posséder du Hametz. Et si on veut manger du pain, alors on doit manger des matzot, c'est-à-dire un pain sans Hametz, un pain pauvre, c'est-à-dire un pain qui n'est que de la farine, de l'eau et du feu. Il n'y a pas de levain, il n'y a pas de sucre, pas de sel, rien du tout. On n'ajoute rien. Et donc, en fait, cette fête, on devrait plutôt l'appeler Hagamatzot. On dit Hagasukot parce que pendant tous les jours de Sukkot, on est dans la Souka. Pendant tous les jours de Pessah, on mange des matzot, disons. A priori, tout le monde mange du pain à un moment ou à un autre dans la journée, donc il mange des matzot. Sauf que le premier soir de la fête, il y a une mitzvah spéciale, une mitzvah particulière qui a plusieurs volets dans cette mitzvah. D'abord, on a une mitzvah ce soir-là, le soir donc du 14 au 15, la nuit du 14 au 15, on a une mitzvah de manger, de faire le Korban Pessah et de le manger. Et puis deuxièmement, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Un parent doit raconter la sortie d'Égypte à ses enfants, à ses petits-enfants. Mais ça, c'est tout ça, le Korban Pessah et le récit, c'est limité à la soirée, à la première soirée de la fête. Après, le reste de la fête n'a plus rien à voir avec le Korban Pessah, on ne peut plus manger le Korban Pessah, on ne peut plus le faire. Et il n'y a pas de mitzvah plus que les autres jours de raconter la sortie d'Égypte, en dehors du premier jour, disons. Et malgré tout, on appelle la fête Pessah, mais c'est un peu un abus de langage. Cette fête de Pessah, nous concrètement, aujourd'hui, ici à Paris, cette fête de Pessah, pour nous, elle est à l'horizon, elle est dans moins d'un mois, et elle se présente comme la fête qui vient après la fête de Pourim. On sait, Pessah, ça se fait un mois après Pourim. Mais en fait, il faut pas oublier que dans la mitzvah qui nous a été donnée quand nous sommes sortis d'Égypte, on nous a donné une mitzvah, une première mitzvah, alors c'était même pas avant la, c'était encore avant la sortie même d'ailleurs, où on nous a donné la mitzvah de Kiddush HaKodesh. La paracha, elle commence à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu le Chodesh HaShana. Ce mois-là, c'est-à-dire le mois de Nissan, le mois du printemps, ce sera le premier des mois de l'année. Et donc, ici, on nous parle d'une espèce de Rosh Hashanah, c'est-à-dire un nouveau calendrier, un calendrier spécifiquement pour juifs, avec un début d'année au printemps, qui n'abolit pas l'autre calendrier, avec un début d'année en automne, qui là semble être un calendrier très relativement répandu. Par conséquent, Pourim, c'est le 12e mois de ce nouveau calendrier. Donc c'est la fin de l'année qui a commencé Pessah dernier. Et donc quand on va passer de Pourim à Pessah, ce n'est pas un changement de mois seulement qui va se passer. Ce n'est pas seulement qu'on va passer du mois d'Adar au mois de Nissan, c'est qu'on va changer d'année. On est dans une nouvelle année. Ce n'est pas comme ça qu'on va compter les années, on continue de compter les années d'après le Rosh Hashanah de l'automne, mais néanmoins, c'est un Rosh Hashanah. C'est un Rosh Hashanah qui est spécifiquement juif et qui est caractérisé justement par quelque chose de spécifiquement juif, si vous voulez, c'est un Rosh Hashanah qui ne se dit pas si vous voulez, comme un commencement d'une année, mais il se dit comme le commencement d'une suite de mois. La grande différence entre Shana, qui veut dire l'année, et Chodesh, qui veut dire le mois, c'est que dans Shana, on entend Shana, qui veut dire répétition, alors que dans Chodesh, on entend la notion de renouveau. Alors c'est vrai, on a donc deux calendriers, un qui est basé sur la répétition et un qui est basé sur le renouveau. Alors, comment est-ce qu'on peut se répéter en renouvelant? Alors, par exemple, si on cherche une image géométrique, c'est une spirale. C'est-à-dire que on repasse au bout de 12 mois à la verticale de l'endroit où on est passé l'année dernière, mais un peu plus haut. D'accord? Chaque fois, on monte. Ce calendrier-là, qui est le calendrier spécifiquement juif, c'est un calendrier qui met l'accent sur la notion de chidouche, de renouveau. C'est fondamental s'il s'agit d'un renouveau, en fait. Il y a, dans l'idée de nouvelle année, bon, c'est une nouvelle année, mais on ne voit rien, il ne se passe rien physiquement dans une nouvelle année. C'est une pure convention. D'accord? Vous pouvez mettre le début de l'année le 1er janvier, vous pouvez le mettre. Alors, nous, on sait que ça représente quelque chose que ça a à voir avec la façon dont le monde. La marloquette qu'il y a entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer pour savoir si le monde a été créé en Tishri ou en Nissan, etc. Pour Pessah, l'idée, c'est la notion de renouveau. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'année en question, l'année qui avait commencé Pessah dernier et qui s'est terminée, qui est en train de se terminer avec le mois d'Adar, dans lequel il y a Pourim. Alors, Pourim, c'est donc une fête que les Chachamim ont ajoutée aux cinq fêtes qui sont écrites dans la Torah. Mais il en a ajouté deux, Pourim et Hanouka. Et Pourim, c'est une fête de joie, effectivement, Simcha. Simcha, pourquoi? Simcha, parce que on a échappé à une solution finale qui avait été concoctée par Aman, Amalek. Et donc cette solution finale, pour nous, elle s'est soldée par zéro mort. Celle-là. Et donc on remercie Hachem de nous avoir permis de sortir de cette situation où on avait la mort complète de tout le peuple juif à l'horizon. C'était ça le... C'était comme ça que c'était présenté. Par conséquent, il y a dans Pourim, bien sûr, il y a la joie, mais il faut bien intégrer que c'est la joie d'une mort annoncée, mais qui n'a pas eu lieu. Donc, quelque part, à la fin de cette année, il y a un phénomène de mort annoncée qui, là-bas, au Hachem, n'a pas eu lieu, mais les Bnei Israël, ils ont quand même vécu assez longtemps avec cette idée qu'ils allaient être massacrés, tous, hommes, femmes, enfants, le 13 Adar. Et qu'ils n'y pouvaient, on pouvait rien y faire. Et en fait, ce qui est très important, c'est que le processus par lequel c'est arrivé, c'est pas que il y a eu une prise de pouvoir différente, etc., simplement. Le terme très important qui est utilisé dans le récit de Megillat Esther, c'est Venaafochu. Il y a eu un retournement. C'est-à-dire, Aman avait prévu de tuer le peuple juif, et ça s'est retourné, c'est lui qui a été tué. Lui et toute sa famille. Et ses fils, quoi. Cette idée que une situation se retourne. Donc, c'est pas simplement une situation linéairement qui a changé, ça s'est retourné. C'est un processus incompréhensible, quoi, quelque part, d'une certaine manière. Alors, c'est spécifique à Pourim que le sauvetage a eu lieu sous forme d'un retournement. Et par conséquent, on a ce souvenir d'une mort annoncée, mais qui ne s'est, bon, HM, pas réalisée, qui précède le changement d'année, en quelque sorte, un changement d'air. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec cette nouvelle année, avec ce Pessah. Donc, on a un Pessah qui est une naissance, quelque chose de complètement nouveau, nouveau calendrier, nouvelle situation. Et Bnei Israël passe de l'état d'esclaves à la liberté. Après être passé d'une menace de mort à la vie, ils vont passer maintenant, on va devoir réfléchir, d'un passage de l'esclavage à la liberté. Et donc cette idée que la mort précède le changement d'air, le changement de monde, en quelque sorte. Si on y regarde un peu plus près, on s'aperçoit que c'est une constante. C'est-à-dire, si vous regardez le Maboul, par exemple, le déluge, le déluge, évidemment, que c'est une forme de mort, c'est la mort du monde, sauf que il y a une toute petite échappatoire, enfin, il y a quelque chose qui... Voilà, c'est quasiment la mort du monde. Mais il y a une famille qui survit, la famille de Noé. Et cette famille de Noé, bien sûr qu'elle vient d'avant. Mais quelque chose change complètement pour elle aussi. En particulier, ce qui change, c'est que Adam Harishon, il avait reçu 6 mitzvot et Noach reçoit la septième. Et du coup, l'humanité va s'appeler Bnei Noach et pas Bnei Adam. On se rapporte à Noach parce que Noach, c'est 7 mitzvot. Adam, c'est 6 mitzvot. Et donc, il y a une nouvelle ère, si vous voulez, une ère où effectivement, Noach, il a le droit de tuer pour manger. Par exemple, il peut tuer des animaux pour manger, ce que Adam n'avait pas le droit de faire. Et ça va durer une dizaine de générations. Et au bout d'une dizaine de générations, l'humanité fait une grande chose. Ils arrivent à se rassembler. Ils mettent toutes leurs énergies en commun. Ils parlent une langue qui leur permet de communiquer parfaitement entre eux. Seulement, ils utilisent cette unité pour faire le mal, pour aller lutter contre Hachem, si vous voulez, en d'autres termes, et ils font ce qu'on appelle la tour de Babel. Et à la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu intervient et il détruit quasiment tout le projet divin, puisque, bon, c'est raté, quoi, c'est fini. Les peuples se sont définitivement disqualifiés. Il y a une forme de mort sous forme de dispersion de cette unité qui avait été construite, fabriquée, et encore beaucoup de dispersion, introduction d'une incompréhension des uns et des autres, dans la mesure où ils commencent à parler des langues différentes. Et finalement, ça aurait pu être la fin du monde. Le projet est raté. Mais à ce moment-là, intervient Abraham. Et Abraham, lui-même, il vient aussi d'une situation de mort. Abraham, il a commencé par mourir. C'est-à-dire, il s'est retrouvé dans une fournaise, qui est un lieu assez inhospitalier. D'accord? Il est au fond d'une fournaise, et normalement, quand on est dans une fournaise, on meurt. Alors, il n'est pas mort. Et là, c'est clairement marqué que c'est de nouveau Hachem qui intervient. Le Midrash dit que Gabriel a dit, je vais éteindre le feu pour sauver Abraham. Hachem a dit, non, non. Abraham, il est unique. Donc, c'est l'unique, c'est moi qui dois m'en occuper. Donc, que ce soit le Maboul, que ce soit la tour de Babel, ou que ce soit Abraham, c'est à chaque fois Hachem qui intervient directement. Et Abraham commence quelque chose de complètement nouveau, qui n'a rien à voir. Bon, c'est pas du tout que simplement, on aurait passé d'un polythéisme à un monothéisme. Ça, c'est pas vrai du tout, quoi. Les valeurs d'Abraham, c'est pas simplement un monothéisme. C'est quelque chose de radicalement différent, avec une responsabilité très très forte. Le problème de la responsabilité, c'est un problème qui a été entrevu, qui a été éventuellement fait l'objet de réflexions, etc., y compris par exemple chez les idolâtres grecs. Mais Abraham, il a une relation avec Hachem, si on peut parler comme ça. Et puis, cette méthode, cette façon de vivre, elle aussi, elle débouche, après avoir passé par quelque chose d'assez énorme, où justement un rejeton de un descendant d'Abraham devient vice-roi d'Égypte, L'Ibn Israël retombe en esclavage. L'esclavage, c'est une forme faible de mort. Esclavage, exil, c'est une forme faible de mort. Et donc, on a cette forme faible de mort, qui est l'esclavage en Égypte. Et Hachem va intervenir. Il va sortir l'Ibn Israël d'Égypte, quelque chose de totalement impensable, en particulier parce que il faudrait, c'est pas qu'il a séparé deux peuples qui étaient côte à côte, et les Juifs n'étaient pas dans des camps ou dans des ghettos en Égypte, ils étaient voisins des Juifs, des Égyptiens. Et donc, quand Hachem a sorti l'Ibn Israël, c'est marqué qu'il a sorti Goy mi Kerev Goy. Il a sorti un peuple au sein même d'un peuple. Il a pris une partie du peuple égyptien. Les Juifs, là-bas, il y avait 210 ans qu'ils étaient en Égypte. Une grande partie du temps, ils n'étaient pas esclaves. Après, ils étaient esclaves, mais enfin, ils étaient égyptiens. Et dans cette sortie d'Égypte, on a demandé à ceux qui, aux gens, est-ce que vous voulez sortir d'Égypte? Il y a quand même 80% des gens qui ont dit non. Non, c'est 20% des gens qui sortent, un cinquième. Donc c'est une toute petite fraction de ce peuple, des descendants d'Abraham, qui acceptent de sortir d'Égypte, qui acceptent quelque chose de complètement nouveau. Alors, c'est une sortie, c'est pas du tout, c'est une libération, mais c'est pas du tout une libération au sens où libre voudrait dire ne pas être esclave. C'est pas ça la libération. La sortie d'Égypte, elle se fait en plusieurs étapes. Il y a une étape concrète où on sort d'Égypte, où le peuple, c'est-à-dire ce cinquième du peuple, là, se singularise, il sort d'Égypte, il traverse la mer, et surtout, 50 jours après sortie d'Égypte, il reçoit la Torah. Et c'est la libération, c'était pour recevoir la Torah, pour vivre selon le modèle de la Torah. Et tout de suite, à cet endroit-là, quand ils acceptent, l'acceptation est déjà quelque chose de tellement formidable qu'ils se retrouvent dans la situation d'Adam Arishon Kodemachet, ils deviennent, ils redeviennent immortels. Mais 40 jours après, on le veau d'or, on devient mortel. C'est-à-dire le bon. Hachem dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je vais en fabriquer un nouveau avec toi. Moshe Rabbeinu a dit, je ne suis pas candidat. Ou bien tu leur pardonnes, ou tu peux m'effacer de ton livre. Et de façon étonnante, Hachem a cédé. Bon, quelque chose de difficile à comprendre. D'après le Gaon de Vilna, ce qu'Hachem a cédé, c'est il leur a donné un sursis. Ils sont condamnés à mort, mais avec sursis. Ça veut dire la condamnation aurait pu ne jamais avoir à être exécutée. Le sursis. Mais les Bnei Israël se sont recassés la figure à l'époque des explorateurs. À ce moment-là, le sursis est tombé, et les gens qui avaient été condamnés à mort, bon, ils vont effectivement mourir. Sur 40 ans, les gens qui étaient majeurs, enfin, qui avaient plus de 20 ans à la sortie d'Égypte, tous ces hommes-là vont tous mourir. Les hommes, seulement les hommes. Pourquoi? Parce que au veau d'or, les femmes n'ont pas participé au veau d'or. Les hommes leur ont arraché leurs bijoux, l'or en question, mais les femmes ont refusé de participer. Et donc elles n'ont pas été condamnées à mort. C'est la raison pour laquelle elles ne meurent pas durant ces 40 ans, comme les hommes meurent. Et bon, cette mort, elle dure un certain temps, 40 ans en gros. Et donc, il y a quand même les survivants, tous ceux qui étaient trop jeunes, et les femmes, qui eux vont entrer en Eretz Israël, mais de tous les gens qui ont vécu adultes la sortie d'Égypte, il n'y a personne d'autre que Caleb et Joshua. Même Moshe et Aaron, Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, pas pour les mêmes raisons, mais ils n'entreront pas non plus en Eretz Israël. Et en Eretz Israël commence une nouvelle vie. Et j'y fais, bon, je parle. Et disons que dans cette vie, après beaucoup de péripéties, les Israël vont construire le Beth Amikdash. Shlomo HaMelech va construire le Beth Amikdash. Et ce Beth Amikdash-là, il va vivre à peu près 400 ans. Et il va être détruit par Nebuchadnezzar, et les Bnei Israël vont être exilés, c'est-à-dire ils vont mourir. L'exil, c'est une forme de mort, faible, mais une forme de mort. Et ils sont exilés, au début chez les Babyloniens, ensuite chez les Perses. Et durant la période perse, arrive la solution finale concoctée par Amalek, Aman. Donc c'est une forme de mort. Mais les Bnei Israël ne meurent pas à cause de ce fameux Nahafouhou. Et ils reçoivent le droit de retourner en Eretz Israël et de reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Il y a très peu de monde, il y a 40 000 personnes qui sortent. Il y avait déjà eu des gens qui étaient sortis à l'époque de Cyrus, mais ils reçoivent, ces gens qui reçoivent, et donc c'est un nouveau Beth Amikdash qui n'est pas du tout comme le premier, mais ils reçoivent un enseignement de Torah de la part d'Ezra, qui leur enseigne la Torah en araméen. Ils changent d'écriture. Ils ont oublié la Torah. On est 70 ans, question. Et puis ces gens qui sont revenus, qui s'installent en Eretz Israël, construisent le Beth Amikdash, et au bout de moins de 200 ans, le peuple juif se suicide. Ils deviennent grecs. Ils adoptent le mode de vie grec. Tout le monde devient grec. C'est-à-dire, il transforme le Beth Amikdash en un temple grec. Ils adoptent le mode de vie grec, les valeurs grecques. Il y a une famille qui résiste, qui entreprend une guerre. Un tout petit groupe de gens qui vont payer très cher pour ça, mais qui vont faire une longue guerre durant laquelle ils vont réussir à nettoyer le Beth Amikdash et le réinaugurer. Ça va donner Hanouka. et 200 ans de royauté juive, en fait, sur la terre d'Israël. Et ça débouche sur la destruction de ce deuxième Beth Amikdash et sur l'exil dans lequel nous sommes encore. Pomme de mort. On n'a pas encore vu la vie que cette forme de mort prépare, en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'on passe, bon, d'abord, il faut remarquer donc que c'est toujours comme ça, une nouvelle ère qui arrive après qu'on ait tué, on en ait terminé avec l'ère précédente. Il faut la détruire. Pas simplement qu'on l'abandonne et on passe à autre chose. Il faut la détruire. Et donc ce passage entre la forme de mort en question, c'est les morts de quasi-mort, la menace de mort, etc. C'est jamais la mort complète, d'accord? Mais il reste quelque chose qui permet de recommencer quelque chose de radicalement différent. C'est entre deux, en quelque sorte, entre la mort et la vie, en quelque sorte. Ça, c'est toujours une intervention d'Hachem. En d'autres termes, c'est une façon de dire qu'on n'en sait rien. Je vous ai dit que le premier soir du Seder, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. La Haggadah de Pessah. Mais si vous y regardez d'un peu plus près de nouveau, vous allez voir que dans la Haggadah, on nous parle de la situation d'avant la sortie d'Égypte et la situation d'après la sortie d'Égypte. Mais quand on essaie de zoomer sur la sortie elle-même, qu'est-ce qui est dit à ce sujet-là? Quelque chose de très important, mais c'est dit que tu ne peux pas rabattre ce qui s'est passé là sur quoi que ce soit de connu. Le Halidé, Malar, Saraf, etc. C'est ni un changement de dynastie, ni une révolution, ni un tremblement de terre, ni un tsunami, ni la décolonisation, ni une révolution, etc. Rien du tout, rien de tout ce que tu peux imaginer. Et même de tout ce que tu vas imaginer dans la fin avec le temps, tout ce que tu peux imaginer, c'est pas ça. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu bichvodo ve'atzmo. Akadosh Baruch Hu est intervenu. Hachem lui-même. Ça, en d'autres termes, ça veut dire, tu peux pas comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, c'est incompréhensible. D'accord? On est sorti d'Égypte en une nuit. Enfin, c'était le jour, mais bon, en une journée, quoi. Ensuite, on a passé la mer à pied sec. C'est incompréhensible, n'est-ce pas? Et dans tout ce que je vous ai raconté, chaque fois, il y a la mort, puis la vie, d'une nouvelle, mais cet entre-deux-là, c'est une intervention divine. En d'autres termes, à chaque fois, on n'y comprend rien. C'est-à-dire, on ne comprend rien au Naporu, à ce renversement. D'accord, on fait un récit très rigolo, très, très joli. Non, non, c'est pas. C'est presque. C'est impensable. Ce qui passait là, je veux dire. Ou alors c'est complètement banal, mais tel que nous le vivons, tel que nous le ressentons comme la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose de nouveau, c'est incompréhensible. C'est toujours incompréhensible. C'est Hachem qui a dispersé, c'est Hachem qui a envoyé le Maboul, etc. Quand les Bnei Israël, dernier commencement de Galoute dans lequel on est encore aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a eu le génie de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un des grands, grands maîtres, comme vous savez, juste pour mémoire, il a réussi à sortir de Yerushalayim. Pendant le siège des Romains, on ne pouvait pas sortir de Yerushalayim, pas seulement à cause des Romains, mais on pouvait sortir parce que les Zélotes ne voulait pas qu'on sorte. Il ne voulait pas qu'on discute avec les Romains et que on arrive à s'écraser devant eux, mais qu'ils nous laissent le Beth Amikdash, qu'ils nous laissent vivre, etc. Il voulait pas de ça. Eux, ils voulaient faire la guerre. Pour obliger les gens à faire la guerre, ils ont mis le feu à toutes les réserves de nourriture que les Bnei Israël avaient pour pouvoir. Ils auraient pu soutenir un siège très très long, les Bnei Israël. Mais les Zélotes ont mis le feu à tout ça. Ils avaient interdit de sortir. Et on pouvait sortir seulement pour se faire enterrer, parce qu'on n'a pas le droit d'enterrer dans Yerushalayim. Et lui, il a réussi à sortir. Et il y a eu un S. Parce que normalement, quand quelqu'un sortait d'Yerushalayim pour se faire enterrer, les gardiens juifs ici, ben, ils lui plantaient une lance pour être sûr qu'il était vraiment mort. Et il y a eu une discussion, ils ont réussi à les embobiner quelque part pour qu'on ne le tue pas. Et quand il est sorti, il a interpellé Titus en le traitant d'empereur. Tu lui as dit, tu es deux fois passible de mort. D'abord parce que tu te moques de moi, mais aussi parce que tu fais une offense à l'empereur. Mais juste à ce moment-là, il a appris que le Sénat l'avait nommé empereur. Et alors, du coup, il a dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu peux choisir trois choses. Tu peux demander trois choses, comme tu m'as apporté cette bonne nouvelle. Et essentiellement, ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a choisi, c'est Yavne. Il a choisi la possibilité pour le Sanhédrin de continuer en tout petit, mais continuer. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a inventé, si vous voulez, le judaïsme de la galoute dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Et ne croyez pas que c'était lui, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. C'est pas du tout. Ce n'était pas évident. Le plus grand maître de la Torah orale, c'était Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a dit, en parlant de Rabban Yochanan ben Zakkai, il a dit, Mi yegale afar me'enecha, qui est-ce qui va enlever la poussière de tes yeux, Rabban Yochanan ben Zakkai? Rabbi Akiva, il lui dit, t'as raté complètement. T'aurais pu demander qu'il lève le siège de Jérusalem. Et tu l'as pas demandé. Le grand Rabbi Akiva, il pensait comme ça. Alors, je ne suis pas, bien entendu, Rabbi Yochanan Zatzal, mais je pense que, disons, mon premier réflexe, c'est de dire que Rabbi Yochanan, il savait à qui il avait affaire. Et il savait que même si, effectivement, les Romains acceptaient de lever le siège, mais ils vont pas accepter que les Juifs deviennent complètement indépendants. Il faudra bien que les Juifs reconnaissent la domination romaine. On va pas détruire Jérusalem, mais reconnaissez. Or, ils savaient très bien que les Zélotes n'allaient pas laisser cette reconnaissance et qu'ils allaient de nouveau entraîner la guerre et que cette fois, on n'aurait pas de chance de sauver quoi que ce soit. Eh bien, qui va y penser autrement? Et personne ne sait ce qui se serait vraiment passé si Rabbi Yochanan avait demandé la levée du siège. Mais a priori, la situation était telle que c'est difficile d'imaginer que ça se passerait autrement. En tout cas, c'est le génie de Rabbi Yochanan qui a mis en place la structure de ce judaïsme qui ne tournait plus autour du Beth Amikdash, qui était quand même le point absolument central du clan Israël. Bon, il n'était pas tout seul. Rabbi Akiva lui-même, il a dit, c'est lui qui dit, Ashrechem Israël, Lifnemi atem mitaharim. Devant qui est-ce que vous pouvez... Certains disent que c'est une phrase que Rabbi Akiva aurait dite au premier Yom Kippour. Les Juifs, ils devaient faire Yom Kippour sans le Beth Amikdash. Ils étaient en galoute, mais même à supposer qu'il y avait encore des gens en Israël, mais il n'y avait pas de Beth Amikdash. Yom Kippour, ça tournait entièrement autour du Beth Amikdash. C'était le Kohen Gadol qui faisait le travail, comme on le lit à Moussaf de Yom Kippour. On lit tout ce qu'il faisait. Et là, il n'y a plus rien. Bon, c'est une nouvelle époque. Et c'est aussi, si vous voulez, une obligation pour les Juifs de se prendre en charge personnellement. C'est-à-dire, tout à coup, ce travail qui était fait par le Kohen Gadol pour la collectivité, désormais, ce travail, chacun d'entre nous doit le faire. Bon, si vous ne faites pas le travail de Yom Kippour tout seul, personne ne le fera pour vous. Alors, on peut dire que bon, c'est une tragédie, mais c'est aussi une obligation de se conduire en tant qu'adulte et plus en tant qu'enfant pour lesquels quelqu'un fait les choses pour nous. Désormais, il faut les faire tout seul, comme un adulte. Visiblement, on n'a pas encore trouvé la solution, mais on trouvera, et merci Hachem. Et donc, ce qui se passe... D'accord, le récit que nous faisons le soir du Seder de la sortie d'Égypte, ce récit-là, comme j'ai essayé de le montrer un peu, ce récit-là, vous pouvez le transposer tout au long de l'histoire juive, en fait. Même de l'histoire du monde. On a une obligation donc de le raconter, parce que nous sommes un peuple du récit. Et on raconte quelque chose, mais qui est dès le départ complètement différent de ce qui se raconte d'ordinaire. Quand quelqu'un raconte, il raconte un événement, il raconte... L'un va raconter sa guerre, il va raconter son expédition, etc. Donc il y a eu une guerre, il y a eu une expédition, et on en fait le récit. C'est comme ça que fonctionnent les récits. Le récit de la sortie d'Égypte, il fonctionne pas comme ça. Akadosh Baruch Hu a dit à mon cher Rabbeinu. À un moment donné, il lui a dit, voilà, Paro, il est mûr là maintenant, il va céder. Ça fait tellement mal, les makkot que je lui ai envoyées, ça fait tellement mal qu'il va céder. Mais je t'avertis tout de suite, moi je ne veux pas le laisser céder. Donc je vais l'aider à tenir le coup. Je vais l'aider à ne pas céder. Ça veut dire son compte personnel, il est terminé, il a, voilà, il est ce qu'il est. Maintenant, j'ai besoin de lui comme une espèce de pion. Pourquoi? Parce que j'ai des choses à montrer encore à l'Égypte. Bon, ça c'est pour l'Égypte. Mais il dit aussi, Ouleman te saper. Et je vais faire des choses pour que tu les racontes. C'est pas du tout, je vais faire des choses et après tu les raconteras. Je ne les fais que pour, enfin essentiellement par rapport à toi, je ne les fais que pour que tu les racontes. J'ai pas besoin de, on n'aurait pas besoin de cette chose-là, mais c'est important que tu puisses les raconter. Alors j'ai pensé, on aurait pu imaginer que les Bnei Israël soient soumis à une hallucination collective. S'imagine qu'il y a eu les Makot. Et ensuite, ils peuvent les raconter. Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait comme ça? Parce que ce ne serait pas le Hémet. Le Hémet, c'est que on va raconter quelque chose qui s'est vraiment fait. Ou en tout cas, quelque chose qui s'est fait de telle sorte qu'on puisse le raconter. On peut presque dire que c'est même quelque chose qui a essentiellement était fabriqué pour le narratif, pour le récit en question. Et penser que peut-être si quelqu'un était spectateur de ce qui s'est passé, il aurait peut-être, et qui n'est pas en charge de le raconter après, peut-être lui il n'aura rien vu. Parce que c'était fait pour que quelqu'un voie et puisse raconter. L'important, c'est le récit. C'est le récit de la sortie d'Égypte, le récit de tout ce qu'Hachem a manifesté, toute la puissance qu'il a manifestée, le fait que, comme il dit lui-même, tu puisses raconter que je me suis moqué de l'Égypte, j'ai fait ce que je voulais avec l'Égypte. Et alors, dans le récit, on va intégrer la façon dont les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire, ce récit, on va le faire lors d'un repas dans lequel on va manger le Korban Pessah. C'est-à-dire, premièrement, on a une mitzvah de faire ce qu'on appelle le Korban Pessah. Cette mitzvah-là, elle est réminiscente en tout cas d'une mitzvah analogue que les Bnei Israël, presque la même, que les Bnei Israël ont reçue quand il s'agissait de sortir d'Égypte. Quand Hachem a dit aux Bnei Israël, la Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, etc., ce mois, c'est le premier des mois. Eh bien, dans ce premier mois, il y a la première des trois fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et puis, les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, sur le point de sortir, Hachem leur a dit la chose suivante. Il leur a dit le 10 du mois, le 10 du mois de Nissan, vous allez aller dans vos bergeries ou aller au marché, je sais pas, et vous allez acheter, c'est le Bet Avot, c'est-à-dire un agneau ou un cabri, par Bet Avot, c'est-à-dire par une extension de la famille, disons. On verra après. Et vous allez l'attacher ostensiblement, par exemple, au montant de vos lits, vous allez l'attacher ostensiblement chez vous. Et il va rester là 4 jours. Et évidemment, les Égyptiens qui vont voir que vous faites ça avec un animal qui est une idole pour eux, ils vont vous demander, mais qu'est-ce que vous faites? Et vous allez devoir leur dire que vous allez manger cette idole. Dans 4 jours, vous allez manger cela. Et les Égyptiens vont être incapables de réagir. Normalement, ils auraient dû vous massacrer. Imaginez que vous ayez reçu l'ordre de faire cela avec les vaches sacrées en Inde. Aujourd'hui, vous croyez que vous seriez sorti indemne de cette affaire? Les Égyptiens ne pouvaient rien faire à ce moment-là. Kadosh Baruch Hu n'aurait pas permis de faire quoi que ce soit. Et le 14, vous allez prendre cet agneau et vous allez en faire la shrita. Vous allez dépecer l'animal et vous allez griller cet animal, griller la viande. Et vous allez la manger, cette viande, le soir. Vous allez la manger quasiment sur le pas de la porte. Alors c'est un korban. Mais bon, les Israël n'avaient pas là-bas de Mizbéar. Et comme vous savez, dans un korban, il y a toujours deux parties. Il y a une partie qui est le travail sur le sang et une partie qui est le travail sur la viande. Le travail qui est sur le sang consiste à faire la shrita, recueillir le sang de la shrita et aller normalement au Mizbéar, à l'autel, et balancer le sang en question sur les parois verticales du Mizbéar, de l'autel. Quand on asperge le sang comme ça, ça s'appelle Zrikat Adam. Et cette Zrikat Adam, c'est elle qui apporte la kapara. Un korban, ça vient toujours pour apporter une kapara, presque toujours. Et la kapara, elle vient dans ce travail-là où on asperge le Mizbeach avec les murs du Mizbeach. Avec le sang de la Shrita. Une fois que ceci est fait, alors on va s'attaquer à la viande. Alors, si c'est une hola, si l'animal est une hola, un holocauste, et toute la viande est brûlée sur le misbère. Si c'est pas une hola, bon, il y a différents korbanot, la viande va être mangée, va être grillée, mangée. Avec assaisonnement, avec la moutarde, etc. Et ceux qui vont manger, ça dépend du korban. Quand c'est un korban qui s'appelle khatat, qui vient parce qu'on a fait une faute, alors c'est les kohanim qui vont manger cette viande. Mais autrement, c'est les propriétaires du korban qui vont la manger. Alors, les Bnei Israël, au moment où ils sortent d'Égypte, ils vont faire la shrita et le sang qu'ils vont recueillir, ils ne vont pas l'amener dans un misbéar, mais ils vont l'utiliser pour badigeonner poteaux et linteaux des maisons, à l'intérieur de la maison. Le badigeon, il est à l'intérieur. C'est pour que eux voient, pas pour que Hachem voit. Hachem, il n'a pas besoin qu'on lui mette des signes extérieurs pour savoir à quelle maison il a affaire. Et puis ensuite, ils vont le manger et on leur a prescrit comment ils allaient le manger. Ils vont manger grillé. Al matzot umrorim. Et vous allez le manger avec des matzot et avec de la salade, avec avec maror. Aussi avec végétal amer. C'est comme ça que vous allez le manger. Et vous allez le manger pas à table avec des nappes blanches, etc. Vous allez le manger sur le moment du départ, avec les chaussures de marche aux pieds, la ceinture aux reins et le bâton dans la main. Et vous allez manger. Ça s'appelle Pessah Mitzrayim. C'est le Pessah en Égypte. Le Pessah que les Bnei Israël ont mangé avant de sortir d'Égypte. Et ça a donné lieu à une mitzvah pour tout le monde, mitzvah qui a été donnée au Sinaï, de manger un korban Pessah nous aussi. On a une mitzvah, mais cette fois-ci c'est un korban. C'est-à-dire qu'on va faire, comme je vous ai dit, Zrikat Adam. Et manger ce corban grillé, tout ça, on va le faire au Bétamigdash, dans l'enceinte du Beth Amikdash. On va faire la shrita, la zrikat adam. Après, ils vont prendre l'animal, ils vont aller le manger chez eux. Grillé, évidemment. Alors, dans la mitzvah du Korban Pessah, il se passe quelque chose de spécial. Il y a normalement deux sortes de korbanot. Il y a ce qu'on appelle Korban Tzibour. C'est le korban qu'on amène Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov. C'est un korban qu'on achète avec l'argent du Marsita Shekel. D'accord? On achète ça au nom de la collectivité. Et on apporte le korban, c'est-à-dire c'est un korban qui est amené au Beth Amikdash pour tout le clan d'Israël. Et par ailleurs, il y a aussi des korbanot qu'on appelle yachid, korbanot de l'individu, qui sont ou bien des vœux que quelqu'un a eu envie de donner un korban. Il s'est senti un peu korban, ça veut dire se rapprocher, oui. Donc, quelqu'un qui a senti qu'il était un peu éloigné, ou bien la Torah lui a dit qu'il s'était éloigné par les fautes qu'il a faites, éventuellement, et qu'il faut qu'il se rapproche. Donc, il amène un korban. C'est un korban yachid, c'est lui qui va le payer, et c'est lui qui va l'amener. Mais bon, là, il pourra faire la shrita éventuellement, s'il veut, mais tout le reste, c'est le Kohen qui va faire. Korban yachid. Le korban pessah, il est un espèce de machin intermédiaire. Je dis machin parce qu'il n'y a pas de mot exactement. Enfin, on va inventer un mot, mais c'est un état intermédiaire. C'est-à-dire, les Bnei Israël reçoivent une mitzvah de faire ce Korban Pessah. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous allez acheter un agneau par famille. Un agneau, pour chaque famille va avoir son agneau. Mais comme c'est un corban, il faudra manger ce corban dans des limites de temps et d'espace. Et il faudra le finir complètement, parce que sinon ça devient ce qu'on appelle notar, c'est pas bien. Alors pour ça, alors on va regarder de comment est composée la famille en question, et puis on va acheter un agneau en fonction de la famille, mais ça peut être un agneau qui va vous livrer, disons qu'il amène une dizaine de 9 kilos, ça m'arrange de dire 10, 9 kilos. de viande. Un agneau qui va laisser 9 kilos de viande. Manger 9 kilos de viande, c'est pas. Alors maintenant, le problème, c'est comme ça. Ce Korban Pessah, vous allez le manger, mais vous allez le manger al hasova. Vous allez le manger rassasié. C'est-à-dire, vous allez faire le soir de Pessah, vous allez faire un repas de fête avec tout le tralala et avec de la viande. La viande que vous aurez préparée le 14, vous avez fait la shrita d'une. Vous préparez une bête, de la viande. Et quand vous avez terminé votre repas, que vous êtes rassasié, et que vous pouvez encore manger la grosseur d'une olive de viande, alors vous allez manger un kezaït de ce Korban Pessah. Donc, disons par exemple qu'un Korban Pessah, qu'un kezaït de viande, ça pèse 30 grammes de viande, si vous voulez. Et si vous avez un agneau de 9 kilos de viande, il faut être 300 personnes à manger. Et donc, toutes les familles font pas 300 personnes. Et donc, les gens qui font pas 300 personnes, ils vont se grouper avec des familles alentour. Donc, on va fabriquer un groupe qui va s'associer. Ils vont acheter ensemble l'agneau en question et ils vont faire tout ça ensemble. Ils vont devoir le manger ensemble. Ils vont devoir manger, ils vont fixer l'endroit où ils vont le faire, ils vont le manger. Ils ne pourront pas aller manger, tiens, ben, je prends un morceau de ma viande et je vais sur le balcon ou chez le copain pour manger. Non, tu peux pas. Tu dois manger au même endroit. Toujours comme tous les corbanotes. C'est-à-dire, la kedusha d'un korban, elle génère toujours des limitations en temps et en espace. Tu dois le manger. Alors, il y a une machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Nazaria. Est-ce qu'on doit manger le korban pessah avant Chatzot de Laïla, avant la minuit, moitié de la nuit, ou bien. Est-ce qu'il faut le man on a toute la nuit pour le manger. Il faut l'avoir terminé avant le début du jour. C'est une marloquette. Donc ça, c'est la restriction en temps. Et la restriction en lieu, c'est que tu dois manger là où tu es. Et donc, ce corban-là, il est un peu spécial puisque ce n'est pas un corban yachid. Ce n'est pas non plus un corban sibour. Alors, il est presque comme un korban sibour parce que tout le monde fait la même chose. Tout le monde mange le même korban au même moment. Mais ce n'est pas un sibour parce qu'il n'y en a pas un seul pour tout le clan d'Israël. Ce n'est pas un korban yachid non plus parce que, bon, il y a plusieurs individus qui se sont mis ensemble. C'est un peu nouveau, quoi. C'est quelque chose qui n'existe que sous cette forme-là, que pour Pessah. Et quand tu vas manger ce soir-là, il s'appelle le soir du Korban Pessah, soir du Pessah. Alors, Chazal ont instauré un seder, c'est-à-dire un certain ordre durant ce repas. Et il va y avoir, durant ce repas, il va y avoir le récit de cette sortie d'Égypte. Et le récit, il va falloir le faire d'une certaine manière. C'est-à-dire, il doit se faire sous forme de questions-réponses. C'est tellement important qu'il y ait cette forme questions-réponses que si quelqu'un se retrouve tout seul le soir du Seder, ben, il faut qu'il s'interroge et se réponde. Il ne va pas simplement lire la Haggadah. Il va falloir peut-être prendre, je ne sais pas, des voies différentes pour lire les questions et les réponses. Bon, c'est Yom Tov, donc c'est mieux d'inviter les gens, de se mettre ensemble, etc. Mais il y a eu des gens qui ont fait le Covid, à l'époque du Covid, qui ont fait Pessah tout seuls. Ils ont dû se raconter l'histoire tout seuls, sous forme de questions-réponses. Et alors, le récit qui est prescrit par la Torah, ce récit-là, il doit se présenter comme le récit que fait un père à son enfant ou à son petit-enfant. Donc il va falloir enseigner la sortie d'Égypte, en quelque sorte, à la nouvelle génération. Fondamental, c'est une espèce de récit, parce comme un récit national, quoi, qu'on transmet, c'est une transmission familiale de père à fils, petit-fils. Et on va susciter des questions de la part de l'enfant. Alors, comme toujours, comme on n'est pas sûr que les enfants posent des questions, etc. Donc, on leur a préparé des questions. Ils vont poser quatre questions. Donc, on enseigne aux enfants, dès qu'ils savent plus ou moins parler, on leur enseigne ces questions qu'ils vont poser. Le fameux Manishtana. Mais pas seulement ces questions-là. On voudrait générer chez les enfants des questionnements. Et pour ce faire, on va faire des choses étranges. On va enlever le plat, le remettre, etc. On va tremper lorsqu'on n'a pas l'habitude de tremper, etc. On va faire toutes sortes de choses qui sortent de l'ordinaire et dont on espère que l'enfant sera encore réveillé au moment où on va lui faire ça, pour qu'il le remarque et qu'il pose des questions. C'est lui le concerné dans la bon, c'est pour lui qu'on parle. Alors, il y aura bien sûr dans le récit, il y aura le récit lui-même, et puis il y aura aussi une manifestation de joie, si vous voulez, sous forme du Hallel. On va inclure le Hallel dans la soirée, quoi. On va s'imposer de chanter le Hallel, de dire le Hallel. Et en même temps, ce soir-là, on va accomplir une mitzvah. Je vous ai dit, la fête de Pessah, elle est caractérisée par le fait qu'on mange des matzot. Mais il n'y a pas de mitzvah de manger des matzot pendant tout Pessah. Si tu veux pas manger, tu manges pas. Sauf le premier soir. Le premier soir, tu as une obligation de manger une certaine quantité. C'est toujours quantifié, comme toutes les mitzvot. Tu dois manger une certaine quantité de matzah. Et puisque c'est quantifié, alors c'est une certaine quantité en un certain laps de temps. Et comme tu vas aussi manger du maror, toujours sur le même modèle que ce qu'eux ont fait, et puis après, comme il y a trois choses, il faut manger le Korban Pessah, al matzot ou mrorim. Alors, on nous rapporte que Hillel, il avait l'habitude de faire un espèce de sandwich avec comme McDo a copié, là, c'est de Korban Pessah, Matzah, enfin Matzah, Korban Pessah et Maror et Matzah. Alors, nous, on n'a pas de Korban Pessah, alors on fait un sandwich du pauvre avec de la matzah et du maror. Et le récit va se faire devant des matzot. Le récit va se faire à matzot découverte. C'est-à-dire que les matzot sont sur la table, sont découvertes. Elles ne seront couvertes que quand on devra boire du vin, puisque les frachamim ont aussi décidé qu'on allait boire 4 coupes de vin durant la soirée en question. En fait, c'est essentiellement 2 coupes de plus que d'habitude, parce que le kiddush, on fait le kiddush tous les Yom Tov, pour le Shabbat, Yom Tov. Le Birkat Hamazon à la kos, c'est aussi classique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a, entre les deux et en dehors, il y a encore 2 autres verres de vin qu'on boit. En plus de ces 2 verres de vin-là. Donc, 4 coupes de vin, ils correspondent aux 4 verbes qui sont utilisés par Hachem pour annoncer comment il va nous sortir d'Égypte. Mais nous libérer, nous sauver, etc., nous racheter, enfin tout ça. Et alors, curieusement, au début du Seder, on va faire une déclaration, on va présenter la matzah, et on va dire que cette matzah, c'est le pain de misère, c'est le pain qu'on nous donnait à manger en Égypte. C'est-à-dire, pas du tout, il n'est pas présenté comme le pain qu'on n'a pas eu le temps de faire cuire, etc. Ce pain-là, c'est le pain qu'on a mangé. Les Égyptiens ne nous donnaient pas du vrai pain, ils nous donnaient un pain pauvre, qui ne tient pas vraiment au corps, qui est plus difficile à digérer parce que dans le processus de fermentation qu'il y a quand on fait du pain, ça a déjà fait un peu le travail de la digestion. C'est plus facile de digérer si ça a déjà été pré-fermenté, quoi, quelque part. La matzah, non, ça n'est pas du tout. Et puis, quasiment à la fin de l'essentiel du récit, on va manger la matzah. On va me faire la mitzvah d'achilat matzah. On va manger cette quantité de matzah. On doit manger dans un certain laps de temps. Et cette matzah-là qu'on va manger, elle est présentée comme la matzah de la liberté. Présente la liberté. Et donc la grande question se trouve, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même matzah. La matzah du début, je l'ai présentée comme le pain de misère, et là maintenant c'est le pain de liberté. Qu'est-ce qui lui est arrivé, cette matzah? Comment elle s'est transformée? Alors je propose de dire que, en fait, la matzah, elle a été transformée par le bombardement du récit. Le récit s'est fait à Matzot découverte. Donc on a bombardé la Matzah avec le récit. Et c'est le récit qui a transformé la Matzah. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de Matzah de liberté, de Matzah de... Ça dépend dans quel état d'esprit on est. Ça dépend comment tu le manges. Tu le manges par choix, tu le manges parce que tu n'as rien d'autre, tu le manges parce que tu as besoin de cette énergie, etc. Et donc, on peut faire un récit qui va faire évoluer la façon dont je mange la matzah en question. Donc, je peux dire que pour moi, à ce moment-là, après le récit, c'est devenu une matzah de la liberté. Mais je sais très bien que c'était aussi les matzot que nous donnaient les Égyptiens à manger. Alors, on va manger cette matzah, mais cette matzah, comme le maror, comme le korban pessah, quand on pouvait manger le korban pessah, Dans le récit de la sortie d'Égypte, on va les présenter. On va présenter ces mitzvot, maasiyot qu'on va faire. On a intégré, il y a un discours sur les mitzvot, maasiyot, sur les mitzvot qu'on va agir en quelque sorte. On va dire, Matzazu, cher nous, Ochlin, ma, Mipnemat, pourquoi est-ce que on mange cette matzah, et là-dessus, on va dire que c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de monter. Le Maror, parce que les Égyptiens nous ont rendu la vie amère. Et ce korban, je mange en souvenir du korban Pessah qu'on nous a prescrit. Donc il y a un discours avant que, comme si il fallait en parler d'abord pour pouvoir ensuite donc le dire dans quel état d'esprit je le mange. Alors, vous remarquerez que, par exemple, la matzah, elle n'est pas présentée comme étant à ce moment-là la matzah de la liberté. C'est une matzah, neber, qu'on n'a pas eu le temps de faire que. On mange ça parce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais il faut comprendre que. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps? C'est pas vrai. Les Israël savaient très bien quand ils allaient sortir. Donc ils avaient largement le temps de faire cuire du pain. Et là, la question qui se pose, c'est comment se fait-il qu'il n'ait pas fait cuire du pain? Vous savez, on va partir, d'accord, on ne sait pas où on va aller, mais ben, le pain, on va prendre du pain quand même. Non, ils n'ont rien préparé. C'est juste que, à la dernière minute, ils ont voulu faire quelque chose et du coup, il n'y avait plus le temps de faire du pain. Alors, c'est devenu les matzot. Ça veut dire que finalement, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer, bah, ils ont remangé ce qui était la même nourriture que celle qu'ils ont mangée quand ils étaient esclaves. Au moment où ils sortent d'Égypte à ce moment-là, c'est comme si eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à se préparer vraiment. Et pourquoi ils n'ont pas réussi à se préparer? Alors, je crois, enfin, moi, personnellement, pour l'instant, depuis un certain temps, je me raconte que c'est parce que je n'y croyais, parce que ça ne voulait rien dire ce qu'on leur a dit. Quand on leur a dit, vous allez sortir d'Égypte, je crois que ça ne voulait strictement rien dire. Parce que personne n'était jamais sorti d'Égypte. On ne sort pas d'Égypte. Et donc, ils se sont dit, on va voir ce que ça veut dire qu'on va sortir d'Égypte. C'est les mots. C'était impensable, d'ailleurs. C'est-à-dire que, pas seulement qu'il était impensable de savoir comment on peut sortir, mais l'idée même de sortir, vous voulez rien dire. Donc pour moi, la matzah, c'est l'impensable. C'est le côté impensable de la libération, de la geoula. Ça n'est pas pensable quand on est un esclave. On ne peut pas penser la geoula. Parce que tout ce qu'on peut éventuellement penser, éventuellement, c'est de ne plus être esclave. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est plus esclave? Ben évidemment, on va copier ce que faisaient les maîtres. En Afrique du Sud, quand il y a eu cette forme d'indépendance, ben les Noirs, ils ont fait ce que faisaient leurs maîtres. Ils ne savaient rien faire d'autre. Et donc, je pense que c'est vraiment l'impensable. Parce que c'est important de savoir qu'on ne peut pas penser. Ça veut dire, c'est aussi important pour nous aujourd'hui de savoir que la Géoula, quand on parle de la Géoula, on parle du Mashiach, etc., surtout ne t'imagine pas que c'est pensable. Ça n'est pas pensable. C'est une émouna, il va se passer quelque chose, mais on n'a aucune idée de ce que ce sera. Aucune idée. Et les gens qui vous disent ce sera comme ci, comme ça, a priori, c'est du charlatanisme. Personne ne le sait. On ne sait pas ce que c'est. Les uns ne nous ont pas dit comment ce serait. Même ce qui est écrit dans le Rambam, etc., le Rambam, il a dit comme ça, quelques généralités, mais on n'en sait rien. On ne sait pas du tout. C'est un autre monde, et quand on est dans un monde, on ne peut pas penser l'autre monde. C'est-à-dire, c'est un infini dont on n'a aucune idée, on ne sait pas ce que ça veut dire infini d'ailleurs.
Mais, Rav, il me semble que la Torah parle de chipazon pour cette.
Chipazon, c'est parce qu'ils sont sortis très. Il fallait sortir très vite. Chipazon.
Donc quelque part, est-ce que ça ne peut pas expliquer quand même ce manque de temps
Non, mais il n'y avait pas, ils avaient
pour faire du pain?
ripazone. Ripazone, ça veut dire vous allez manger très vite et sortir tout de suite. Ce qui est un peu compliqué d'ailleurs parce que, en vérité, à minuit, quand Akadosh Baruch Hou a fait mourir tous les prorotes, Paro a fini par trouver Moshe et il lui a dit partez. Et Moshe a dit on ne va pas partir comme des voleurs en pleine nuit. On partira quand il fera jour. Et on partira pas tant que tu n'auras pas signé un document par lequel tu nous libères en tant qu'esclaves. Parce que les Bnei Israël ne travaillaient déjà plus depuis une année, mais formellement, ils étaient encore esclaves de Paro. Et Moshe voulait qu'on soit complètement libérés. Et Paro voulait pas signer ça. Alors Moshe a dit, nous, on n'est pas pressé. Et donc, bon, il est tout de suite revenu, Paro, parce que c'était insupportable. Il y avait tellement de morts que ils ont chassé littéralement les Bnei Israël. Mais les Bnei Israël, finalement, ne sont sortis qu'en plein jour. Même s'il faisait déjà jour dans la nuit, c'était changé en jour, mais ils sont sortis quand c'était vraiment le matin. Et bon, ils ont dû sortir, manger vite et partir vite. Ripazone.
Donc vous voulez dire que la matzah n'est pas une conséquence de ce chipazon.
Non, non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que la Matza. Elle est comme on dit, ils n'ont pas eu le temps. Et pourquoi t'as pas eu le temps? T'as pas eu le temps parce que tu t'y es pris trop tard. Mais c'est normal de s'y prendre trop tard. Parce que c'était impensable. Ça n'avait pas de sens de, on va pas préparer du pain. Qu'est-ce que, ça ne veut rien dire. Je sais pas ce qu'ils pouvaient penser qu'on va être libre, ça veut dire. Comme des générations qui étaient esclaves. Plus de 80 ans qu'ils étaient esclaves.
Si on a quelques minutes, là, il y a quelque chose qui est difficile pour moi de comprendre. C'est lorsque vous avez dit qu'en fait, ici, le récit prime sur, on va dire comme ça, je ne sais pas si ça me vient à l'esprit, le fait historique.
Plus
Si,
exactement,
si.
le fait historique est au service du récit. Ce n'est pas qu'il prime. Il est au service du récit.
Oui, mais
D'habitude, le récit est au service du fait historique. On veut reconstituer, revivre, etc.
ben, si vous voulez,
Ici, c'est vrai qu'on veut vivre ça, mais en fait, il n'y a eu de fait historique à raconter que parce que Hachem voulait qu'on raconte quelque chose.
ouais, non, mais ça va très loin, ça, je veux dire, sur le plan de la pensée. Et donc, en fait, ici, ce qui me vient comme difficulté, c'est dans ce cas-là, comment éviter de tomber dans le symbole? En fait, ici, voilà, le récit est au service du fait historique, et donc en
Non, non, non,
définitive.
non, 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 non. Le contraire, vous avez dit le contraire. Le fait historique est au service du récit.
C'est bien ce que j'ai compris.
Ouais, ok.
Donc, le fait historique est au service du récit, on est d'accord.
C'est ça, je vous ai dit,
Voilà.
imaginez, on aurait pu imaginer que le fait historique n'ait pas lieu, mais que les Bnei Israël soient victimes d'une hallucination collective et qui pensent par hallucination que le fait historique a eu lieu. Ils pourraient le raconter en toute bonne conscience, sauf que ce ne sera pas vrai. Mais le récit il sera vrai. Ils ont l'impression de l'avoir vécu.
Non mais bon, alors dans ces cas-là, regardez comme ça. Pourquoi c'est si important qu'en fait le fait historique soit au service du récit? Pourquoi? Pourquoi c'est encore... Enfin, moi, je l'ai entendu comme ça. C'est-à-dire qu'ici, si Akadosh Baruch Hu, il fait les choses, en la matière ici sur Pessah, c'est pour qu'on puisse le raconter. Je pense que
Oui.
je reformule assez bien vos propos.
Oui. Il y a une composante pour l'Égypte aussi, mais en ce qui nous concerne, pour nous, c'est comme si ce fait qu'on raconte, il n'a été fait que pour être raconté.
Mais pourquoi c'est si important? Pourquoi le fait historique ne, par lui-même, je dirais de façon intrinsèque, ne suffirait pas à ce que la transmission se fasse et que... On comprenne le message à travers le fait historique. Mais pourquoi dire, ah, je l'ai fait pour que tu le racontes? C'est assez troublant, quoi, je veux dire.
Mais c'est ça, là, je crois, c'est ça la spécificité de ce récit. Pourquoi le récit en question, il est tellement important dans le judaïsme? D'accord qu'il y a plein de gens qui font rien d'autre que raconter plus ou moins bien la Haggadah de Pessah. Des gens qui font rien, mais la Haggadah de Pessah, ils racontent. À leur manière, mais ils racontent. Parce que, effectivement, nous sommes un peuple du récit. Si vous voulez, quand les Bnei Israël sont arrivés en Israël, imaginez le premier Seder qu'ils ont pu faire en Israël, personne, aucun homme ne pouvait raconter, j'y étais en tant qu'adulte. Il y avait Yoshua et Caleb. Mais bon, monsieur tout le monde ne pouvait pas dire, il était là éventuellement comme enfant, mais pas comme adulte. C'est-à-dire, quelque part, on n'a que le récit. Tout le monde est à la même enseigne. Sinon, si vous voulez, sinon, on aurait eu des gens qui auront dit, mais j'y étais, et les autres disent, non, j'y étais pas, mais voilà, je connais quelqu'un qui y était, quoi. Donc là, quand ils vont raconter, personne ne va dire, j'étais là-bas. Alors, on vit beaucoup sur le récit parce que on n'a pas d'accès direct aux choses, quelque part. La Torah, elle nous raconte, elle nous parle. La Torah est un récit aussi.
Non, mais
C'est des paroles vives. C'est vivant, quoi, quelque part. C'est un récit vivant. Toute la vie est dans le récit, quoi.
justement, Rav, on a l'impression enfin, moi, j'ai souvent eu cette sensation que toute la Torah est faite comme ça, comme si, en fait, c'était fait pour être raconté, en fait, comme si on était à l'intérieur d'un. Comment dire, de quelque chose qui quand même nous a échappé, en fait, de quelqu'un qui a tissé le récit. C'est-à-dire, vous l'expliquez vous le dites sur ce moment-là, c'est-à-dire que c'est que le fait historique a été fait pour le récit, mais moi j'ai l'impression.
Que ce soit bien clair, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Hein.
Non, non, non,
C'est
non.
écrit dans la Torah, le man, je le
Oui.
fais pour que tu le racontes.
Oui.
Le man te s'appelle. Je l'ai fait pour que tu le racontes.
Mais j'ai l'impression, c'est peut-être parce que nous, on étudie le récit et que c'est vivant, mais j'ai l'impression que c'est comme ça sur toute la Torah. Sinon, c'est le principe même de la Torah orale, en fait.
Oui, mais le problème, c'est qu'il y a une Torah orale, mais il y a aussi une Torah écrite, qui, elle, ne bouge pas. La Torah orale, elle est faite pour bouger, elle est vivante. La Torah écrite, elle ne vit pas de cette manière-là, en tout cas.
Mais dans la Torah écrite, on a le récit de, on a un récit de Pessah quand même. Donc.
La Torah nous raconte, mais ça, ce qu'on doit raconter, il y a le récit comme tout le reste du récit de la Torah. Quand la Torah raconte, des événements, elle en fait le récit, et nous n'en avons que le récit. Seulement ce qu'on peut dire, là, nos ancêtres y étaient. Voilà. Là, ils étaient, mais bon. En fait, pour nous, c'est un récit. Si tu me demandes d'où tu sais, pourquoi tu fais confiance, ça, mon père m'a dit que son père lui avait dit, que son père lui avait dit qu'il y était.
En fait, comme tout est enseignement, on a l'impression que je fais, enfin, les choses ont été faites pour pouvoir être racontées, donc pour tirer un enseignement plus tard pour les générations suivantes des événements qui ont eu lieu là, que j'ai fait pour qu'elles puissent être dites. Mais comme tout le reste dans la Torah est aussi enseignement, on a aussi l'impression que cet
Et je n'ai pas à
enseignement-là.
le raconter parce que justement dans la mitzvah de raconter, c'est un récit où je ne raconte pas en faisant la lecture de ce qui en est dit dans la Torah. Je raconte avec toute la Torah orale. Je raconte, je brode sur, comme on dit, plus tu racontes, mieux ça vaut. Mais comment je peux raconter plus? Je vais essayer de réfléchir. Peut-être de me représenter les choses, de rêver les choses. C'est la Torah orale. Chazal, on fait déjà une grande partie du travail. Le récit, c'est pas. Le récit consiste pas du tout à lire un parchat de Bo et ensuite un morceau de Béchalar ou un morceau de Vaera, etc. C'est pas ça du tout le récit de Pessah. Ok, on va s'arrêter là. On reprendra la prochaine fois.
Merci, Rab. Merci.
Oui.
Et bonsoir.
Merci, Rab.